Deuxième partie de la Grande Table à midi, presque 56 minutes sur France Culture. Caroline Brouet.
Merci Ludovic Piétenu. Nous devions faire une émission, c'est ce que nous avions annoncé, avec Yvon Quignou sur la religion. Et bien cette émission, bien sûr, est reportée à la semaine prochaine ou à celle d'après, puisque nous avons, comme vous venez de l'évoquer, appris avec une immense tristesse le décès cette nuit d'Abdelwahab Medeb. Abdelwahab Medeb était écrivain, poète, en dehors d'être producteur sur France Culture de cette émission Culture d'Islam, c'était aussi un intellectuel et nous avons choisi de lui rendre tout de suite un hommage dans cette dernière partie jusqu'à 13h25. Nous sommes au téléphone avec le philosophe Jean-Luc Nancy, qu'il a très bien connu. Nous sommes en plateau avec un éditeur qui fut son éditeur pendant 10 ans. Au Seuil, c'est Jean-Louis Schlegel. Bonjour.
Bonjour
et bienvenue. Et nous sommes avec l'historien Benjamin Stora, qui fut son ami jusqu'à la dernière minute, on peut le dire, qui est aujourd'hui Benjamin Stora, le directeur du musée de l'immigration, avec lequel vous aviez fait un livre l'année dernière, Benjamin Stora, Histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours, paru chez Albin Michel. Vous étiez venu à cette même antenne, à ce même micro, nous en parler le 28 octobre 2013. Je voudrais, pour commencer cette émission en hommage à Abdelwahab Medeb, qu'on entende sa voix. C'était donc l'année dernière à la Grande Table.
Dans notre chaîne, il y a une émission qui s'appelle Culture d'Islam, avec un grand T, et que l'intitulé de mon enseignement à l'université française, au sein de l'espace académique, c'est Europe-Islam. Très souvent, on me dit comment un terme géographique face à un terme religieux. Non, il y a Islam avec petit i pour la religion, Islam avec grand I pour civilisation et culture. Cela va de soi. Et je vais vous donner un exemple définitif, une preuve définitive qui signale donc les deux sens du mot Islam. La manière avec laquelle l'Islam est présenté dans la Divine Comédie de Dante. Nous avons trois figures qui représentent la civilisation et la culture qui sont sauvées, qui sont mis à la même place que les Grecs, et que les latins, ceux donc qui n'ont pas connu l'âge de la grâce, qui ne peuvent pas être dans le paradis, mais qui ne sont pas dans l'enfer, ils sont dans les limbes, Averroès, Avicenne, deux philosophes, et un homme politique qui est censé représenter l'esprit chevaleresque en politique par excellence, Saladin. Alors que, partie religieuse, Mahomet et Ali subissent les pires des sévices au huitième bouge de l'enfer, comme ceux-là même qui sont les diffuseurs de la discorde et de l'hérétisme, parce que l'islam était perçu dans la tradition chrétienne, non pas comme une religion propre, mais comme une hérésie. Donc là, vous voyez, à l'œuvre chez quelqu'un comme Dante, un homme donc du XIIIe siècle, qui avait le constat spectaculaire qu'il y a lieu de distinguer avec islam petit i religion, islam grand i civilisation.
On a tout là, il me semble, Benjamin Stora, d'Abdelwahab Medeb, un rapport à la poésie, bien sûr, Dante était l'une de ses références constantes, une culture, une érudition, une élégance dans la façon de parler, et puis évidemment sa culture d'islam.
Oui, vous avez raison de souligner les facettes multiples d'Abdelwahab, parce qu'il était bien sûr un grand intellectuel, un grand érudit, on y reviendra je pense, mais surtout un homme très courageux, courageux par ses prises de position politiques, on les connaît, bien sûr, contre les dérives de l'intégrisme religieux, puis le courage physique, parce qu'il a affronté la mort ces dernières semaines en face, jusqu'à hier soir, on était avec Christian Jambé hier soir avec lui, il était un homme qui, jusqu'au bout, a regardé la vie et la mort en face. Donc c'est quelqu'un de très courageux. Voilà, il a, parce qu'il faut savoir que cette maladie a été découverte très récemment et il a été emporté en quelques semaines seulement. C'était vraiment une grande surprise. L'année dernière, exactement à la même époque, vous avez eu raison de démarrer cette émission par ce rappel radiophonique ici à France Culture. Tous les deux, nous étions là exactement il y a un an tout juste. Un an. Il était en pleine forme. Et pour la sortie du livre « Histoire des relations entre juifs et musulmans », on avait fait un peu, j'allais pas dire le tour du monde, mais presque, puisqu'on est allés ensemble, tous les deux, devant des assistances très très nombreuses, présenter cet ouvrage au Musée d'art d'histoire du judaïsme, à l'Institut du monde arabe à Paris, à Rabat, à Casablanca, à Alger, à Haïfa, un peu partout, à Strasbourg, il y a un an tout juste, vraiment, jour pour jour, où nous étions tous les deux ou à Marseille, c'était à chaque fois pour moi un grand ravissement que d'écouter Abdelwahab, parce qu'il était un puits de science. Citer des versets du Coran en arabe, bien sûr, les traductions, enfin bref, il était dans la grande lignée des penseurs arabes contemporains que j'ai pu connaître et admirer, comme Mohamed Harkoun ou Jamaleddin Benchir. À la différence près, c'est qu'Abdelwahab Medeb était de ma génération, alors ce qui n'était pas le cas de Harkoun et de Benchir, d'où l'émotion évidemment qui est la mienne aujourd'hui.
Qui doit être aussi celle de Jean-Luc Nancy qui est en ligne avec nous. Bonjour monsieur et merci d'être avec nous au téléphone, vous m'entendez ? Jean-Luc Nancy n'a pas l'air d'être là au bout du fil. Jean-Louis Schlegel, je vous remercie aussi d'être là. Vous l'avez connu comme l'un de vos écrivains. Vous avez publié un paquet de livres quand même de lui aux éditions du Seuil pendant 10 ans.
Oui, ça a commencé par un titre dur, si on peut dire, La maladie de l'islam.
C'est aussi celui qui l'a fait connaître au grand public, La
maladie de l'islam.
Absolument,
ça a été un très grand succès. D'ailleurs, je veux rendre hommage à ceux qui l'ont fait écrire ce livre. C'était à l'origine une interview dans Esprit. Et c'est Claude Cherki, l'ancien patron du Seuil, qui m'a dit il faut qu'il fasse un livre sur la maladie de l'islam. Et c'est comme ça que ce livre est devenu ce best-seller ensuite. Et c'est vrai, parce que c'était un best-seller.
C'était un best-seller et Benjamin Stora disait qu'on connaît bien ses prises de position. Pas tout le monde, hein, quand même, Benjamin, connaît les positions d'Abdelwahab Medeb, mais en particulier sur la maladie de l'islam. Cette position très clairement affirmée et constamment répétée que l'intégrisme est la maladie de l'islam. Il combattait l'obscurantisme.
Oui, vous avez raison, et c'était un combat de face. C'est d'ailleurs, quand on est éditeur, on peut ne pas partager totalement les idées. Et c'était une de nos discussions à tous les deux. Enfin, est-ce qu'il faut mener ce combat de face ? Il s'est proclamé très carrément, ensuite, voltairien. Hein, voltairien contre l'infâme, en quelque sorte, l'infâme musulman. Hein, et il n'a jamais dérogé là-dessus. Il y a quand même eu beaucoup d'évolutions depuis 2001, malgré tout, beaucoup de discussions, beaucoup de débats. Mais là-dessus, il a toujours été extrêmement intransigeant. J'en souris presque parce que, il n'a jamais baissé la garde sur ce point précis que l'islamisme, c'est le côté effroyable de l'islam, il faut le combattre de face. Et en même temps, il n'a jamais cessé non plus de défendre, on pourrait dire, le grand islam, comme il dit, avec un grand I, l'islam de civilisation. Hein, et même, disons-le, la beauté de cet islam. Il a été dans la position peut-être de certains d'entre nous, enfin, qui ont été élevés dans une très forte tradition religieuse. Il est devenu un critique, peut-être voltairien, de l'islam. Et en même temps, quand on attaquait, j'allais dire, bêtement l'islam, il ne le supportait pas. Et il devenait un défenseur du grand islam avec un grand I.
Alors on a retrouvé Jean-Luc Nancy au téléphone. Jean-Luc Nancy, vous m'entendez ?
Oui, oui.
Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner de la relation que vous aviez avec Abdelwahab Medeb. Vous le connaissiez personnellement ? Vous le connaissiez comme poète ? Vous le connaissiez ?
Oui, je le connaissais un peu comme tout, je dirais, oui, comme ce dont Benjamin Stora a parlé et ce dont vient de parler Jean-Louis Schlegel. Oui, évidemment, oui, comme poète et comme penseur, parce qu'il s'intéressait beaucoup aussi à tout ce qui de la philosophie permettait d'ouvrir à une compréhension de l'islam qui soit autre chose que étroitement religieuse, je dirais. D'ailleurs, il rêvait un peu, c'était un point de différent entre nous. Il rêvait un peu d'une religion unique, universelle, enfin, qui pourrait rassembler toutes les autres. Mais je lui disais que je ne croyais pas que ce soit possible. Mais dans la poésie, je crois qu'il rassemblait tout. Il rassemblait la beauté de l'islam, le rappel du soufisme et tous les ponts qu'il aimait tellement jeter entre les cultures de l'Europe et du monde arabo-musulman. Par exemple, vous parliez tout à l'heure de Dante, mais très souvent, il comparait Dante et Ibn Arabi. Il comparait aussi à Maître Eckhart. Il faut cependant signaler que, vous l'avez peut-être dit dans l'émission, je n'ai pas entendu beaucoup, que peu avant de mourir, il a publié son portrait du poète en soufi.
aux éditions Belin, début octobre.
Oui, dans la collection de Michel Deguy, l'extrême contemporain. C'est un très, très grand poème, je dis grand par la longueur et grand par l'ensemble de ce qui brasse. Il y parle, oui, il y parle vraiment de l'Orient et de l'Occident mêlés l'un à l'autre. C'est un peu un écho de ce voyage de l'Occident de Sourav Hardy qu'il a publié. Il a publié et commenté il y a déjà pas mal d'années. Parce que je crois que ce qui me frappe beaucoup dans l'histoire d'Abdel Wahab, c'est que c'est celui qui est venu en France en pensant qu'il y trouverait les lumières, la modernité, la démocratie, et puis qui peut-être a été de plus en plus déçu par ce qui arrive à l'Occident. À la France aussi.
Oui, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore dit sur l'aspect biographique. Benjamin Stora, je me tourne vers vous. C'est que Abdelwahab Medeb faisait partie de la dernière génération tunisienne qui a bénéficié d'une formation bilingue franco-arabe. Et même s'il a fait des études de lettres et d'histoire de l'art en français, il revendiquait son milieu religieux d'appartenance avec un grand-père lecteur de la loi, c'est-à-dire spécialiste des différentes lectures possibles du Coran, avec un père théologien qui avait suivi l'enseignement de tradition médiévale de l'un des trois hauts lieux de la transmission du savoir coranique. C'était une famille de notables, mais il s'en était détaché pour venir faire des études en France à la Sorbonne, et il vivait en France depuis 1967. Double culture au moins, Benjamin.
Oui, tout à fait. Il a appris le Coran à l'âge de 4 ans, comme beaucoup de jeunes musulmans, d'enfants musulmans ont appris, c'est-à-dire dans la récitation, mais il était issu d'une grande famille de notables cultivés, des oulémas en fait, de l'islam, de Tunisie, dans la prestigieuse université de la Zitouna, qui est la plus vieille université islamique du Maghreb, d'Afrique, et du monde musulman d'ailleurs au sens large. Donc il baignait complètement dans cette culture religieuse traditionnelle, et effectivement vous avez raison de souligner cet aspect, c'est que au contact, dans l'apprentissage à la fois de la langue française de la culture française, il a, et quand il est venu en France, cherché à la fois à être, pour reprendre là, c'est un mot de Derrida, rester à la fois fidèle à ses origines, c'est-à-dire à ce qui constituait cette sorte de matrice d'origine, mais en même temps infidèle, fidèle et infidèle. Parce que l'infidélité, pour lui, c'était peut-être aussi le meilleur moyen de rester fidèle quelque part à son origine. C'est-à-dire de s'extraire de la tyrannie de la tradition du religieux pour rester peut-être encore plus fidèle à l'origine et à la trace de l'origine. En d'autres termes, il pensait pas, je crois, que la question de l'islam politique aujourd'hui était une forme de retour du religieux, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, mais il pensait au contraire que c'était une forme de déculturation. Cette question de l'islamisme politique, c'était une fausse valeur de retour à l'origine, et lui plaidait, d'où l'importance du soufisme, et lui plaidait au contraire pour le retour authentique à l'authenticité, disons de la mystique, portée par la religion musulmane. Donc il y avait chez lui aussi cette profondeur d'investigation dans la pensée mystique.
C'est exactement ce qu'il expliquait à Alain Finkielkraut à Réplique en 2002, au moment de la sortie de La maladie de l'islam. Écoutez-le, Abdelwahab Medeb.
Personnellement, j'estime vraiment que justement un des très grands problèmes actuels de l'islam, c'est que la tradition se dissipe et qu'elle se transforme en idéologie et en idéologie de combat. Telle est la différence quand on fréquente les textes, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que, vous savez, la passion qu'ont eu les Européens pour l'islam, tous, à partir de Guénon. Prenons le cas de Chodkiewicz, par exemple, qui est le plus célèbre, qui sont entrés en islam. Tous sont entrés en islam pour retrouver, justement, l'esprit d'une tradition qu'ils estiment que l'Occident a perdu. D'ailleurs, la revue des Guénoniens s'appelle « Études traditionnelles ». Et là, nous avons véritablement affaire à, je dirais, une approche de vécu, d'expérience intérieure, de symbolisation des rites et des cultes, de fréquentation des textes au plus haut, je dirais, de la sophistication. Alors que l'essentiel de la production et des textes actuels qui nous émanent de l'islam sont des textes, je m'excuse, indigents.
Thank you.
France Culture, La Grande Table, Caroline Brouet.
Nous rendons hommage aujourd'hui à Abdelwahab Medeb, figure de France Culture, producteur de l'émission hebdomadaire Culture d'Islam depuis 1997, écrivain, poète et intellectuel. Nous sommes en compagnie de Benjamin Stora, historien qui fut son ami toujours, et de l'éditeur au Seuil qui a édité un certain nombre de ses livres, Jean-Louis Schlegel. Vous l'entendiez là, Jean-Louis Schlegel, par rapport à ce que disait Benjamin Stora. On retrouve là encore un Abdelwahab Medeb que vous avez bien connu.
Oui, là, enfin, tout ce qu'on a dit, je le retrouve vraiment tel qu'en lui-même. Alors, Abdelwahab était quand même... Alors, il avait une autre origine qu'il a rappelée dans un livre de dialogue face à l'islam, publié chez Textuel à l'époque. Je ne sais pas si ça existe encore, je crois que ça a disparu, mais...
Textuel existe encore, si c'est
ça. Il dit qu'il a une origine morisque, pardon. Il a donc... c'était les... Des musulmans convertis, mais qu'on a soupçonné d'être mal convertis, et donc qui ont été renvoyés en terre d'islam, si on veut. Et effectivement, plus d'une fois, enfin, j'ai eu parfois cette image que s'il n'avait pas été tunisien, j'aurais dit c'est un hidalgo espagnol. C'est-à-dire il y a un côté fierté ombrageuse chez lui qui était parfois difficile à vivre, disons-le, hein, mais qui faisait tout l'intérêt du bonhomme. Enfin, c'est facile à dire après coup, mais c'était un homme. Je trouve que c'était un homme d'envergure de ce côté-là, hein, que incontournable et un auteur pas facile toujours. Mais qui, de là est né entre nous, je crois, une vraie amitié, une vraie confiance mutuelle pour continuer le chemin.
Benjamin Stora, le rapport à la Tunisie, c'est précisément aussi un rapport de fidélité infidèle ou d'infidélité fidèle. Il a quitté la Tunisie, je le disais, en 1967, puisqu'il est venu s'installer là. La Tunisie et cette démarche personnelle, c'était quand même au cœur, je me souviens, de votre histoire des relations entre juifs et musulmans, puisque vous inscriviez tous les deux, pas en tant qu'historien, même si vous êtes historien, mais dans un rapport personnel, vous à l'Algérie et lui à la Tunisie. Quel était son rapport avec la Tunisie de ces dernières années, disons ?
Le rapport a été toujours extrêmement fort, extrêmement important. Il n'a jamais interrompu ce lien avec la Tunisie. Et, il était très attentif aux bouleversements en cours. Il a connu, il a entendu plutôt la défaite du parti islamiste d'Ennahda en Tunisie. Je pense que ça, c'était important pour lui parce qu'il avait été un militant actif contre la possibilité d'une prise de pouvoir par l'intégrisme religieux en Tunisie. Donc il avait été cet homme très engagé. Au moins, il aura connu ce type de résultat qu'il a appelé de ses voeux, bien sûr. Mais plus que cela, il a été aussi quelqu'un à travers la Tunisie, dans l'ouvrage que nous avions dirigé ensemble sur l'histoire des relations entre juifs et musulmans, très, très, disons, très impressionné, très porté par cette sorte de mixité, de passerelle entre les communautés juives et musulmanes qui fabriquaient, qui faisaient cette sorte d'espace mutuel, de circulation entre ces deux grandes communautés qu'il avait connues. Alors je pourrais lire peut-être quelques extraits de ce qu'il a écrit dans ce texte introductif. Ce qu'il a écrit, le premier texte qui est introduit sur l'histoire des relations entre juifs et musulmans, c'est un texte personnel où il parle de sa vie, où il raconte sa vie et de son rapport précisément à la fois à l'islam et au judaïsme. Et il dit la chose suivante, je le cite, « En somme, je me disais que juif ou musulman, il était possible d'être tunisien et moderne. L'évolution n'est pas pure trahison. Voilà ce qu'est m'évoquait la présence des juifs dans un Tunis où ils illustraient en plus la joie de vivre, l'hédonisme, la belle mixité. » Ça, c'est un aspect, disons, qui est très important. Et il terminait ce texte très bref qui ouvre cette encyclopédie. Il disait, bon, était aussi pour moi formatif, performante et stimulante la participation d'intellectuels juifs aux discussions qui suivaient les séances de cinémathèque. Et il disait, après le départ des juifs de Tunisie, Tunis s'est mis à errer vers l'Est et s'est faite petite sœur du Caire post-nassérien, ce qu'il naturellement regrettait. Il regrettait cet aspect festif, cet aspect de circulation, de convivialité, de métissage, et donc d'entre-soi, mais fait en même temps de circulation et d'échange entre les différentes communautés. Je crois qu'il était très nostalgique aussi de toute cette grande période.
Et en même temps, il a reconnu avoir longtemps pensé que Ben Ali était face à l'islamisme en Tunisie le moindre mal, et qu'il se disait disait convaincu un peu tardivement, reconnaissait-il, que cette séquence de l'histoire était passée et que c'était sa fille, Hind, qui lui avait fait prendre conscience de l'ampleur des événements en Tunisie, qu'il n'avait pas vu venir comme tout bon intellectuel parisien qu'il était devenu.
Non, mais vous savez, Abdel Wahab était engagé dans un combat qui était celui du front culturel, fondamentalement. C'était un poète, un intellectuel.
C'est-à-dire pour cette raison qu'il avait accepté l'émission Culture d'Islam. C'était, oui, disait-il, pour désenclaver l'islam et montrer les différentes cultures d'islam.
Tout à fait. Et donc, je crois qu'il ne faut pas mélanger la priorité de ces combats. La priorité, encore une fois, c'était le front culturel et pas le front politique. Ce n'était pas un homme politique au sens classique du terme. Et dans sa priorité, dans le front culturel, sa priorité, c'était la question de la dérive vers l'intégrisme religieux. Et alors, à partir de là, on a pu peut-être lui reprocher le fait de n'avoir pas su mener de front la bataille à la fois contre l'intégrisme religieux et à la fois contre les régimes dictatoriaux qui existaient dans le monde arabe. Mais fondamentalement, Abdel Wahab n'était pas du tout un adepte des régimes totalitaires ou dictatoriaux, pas du tout. Mais il jugeait que la priorité de son combat intellectuel et culturel était celui de la question de l'islam et de l'islamisme et de la dérive dangereuse vers une forme, disons, d'enfermement religieux.
Et c'est ce qu'il n'a cessé d'écrire, Jean-Louis Schlegel, dans les livres notamment que vous avez édités, mais on peut parler même d'un quatuor de livres. Hein, après la maladie de l'islam, en 2002, il y a eu Le sortir de la malédiction, Islam entre civilisation et barbarie, il y a eu Face à l'islam, que vous citiez, il y a eu Contre-prêche. Il n'a cessé de combattre et de défendre en même temps, avec ses doubles positions, ce dont parle Benjamin.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a, il y a peut-être eu ce que vous dites, c'est-à-dire que ce que Benjamin a dit aussi, c'est-à-dire que l'urgence, ça a toujours été d'opposer une barrière absolument inflexible à l'islamisme. Et pour lui, il n'était pas question d'une certaine manière de discuter des nuances de l'islamisme. L'islamisme, c'était pour lui une vague qui emportait littéralement tous les islams, aussi bien l'islam de civilisation que l'islam religieux, le véritable islam religieux, l'islam populaire, bien sûr, le soufisme. Et donc, encore une fois, il prêchait un combat de face et non pas de biais, non pas avec des distinctions. Et c'est un peu étrange pour un intellectuel, mais c'est vrai qu'il a tenu dans cette position et il faut dire qu'elle avait sa cohérence. Hein, il avait sa cohérence. Alors évidemment, dans l'actualité historique, quand il y a un Ben Ali qui était quand même en Tunisie même de plus en plus contesté comme un dictateur dangereux, il y a peut-être eu là un petit point d'aveuglement, je dirais. Encore que, comme dit Benjamin, je l'ai entendu dire pique pendre de Ben Ali, il n'avait absolument aucun amour, aucune amitié quelconque pour Ben Ali. Mais d'une certaine manière, il trouvait que c'était la moins pire des situations par rapport à l'islamisme qui, pour lui, était l'ennemi absolu.
Et ces errances ou cette évolution de son rapport à la Tunisie, le voyage qu'il a fait, aussi bien physique d'ailleurs que psychologique par rapport à son pays, eh bien, il en a fait un livre. Il en a fait un livre grâce à un autre éditeur, qui est l'éditeur de La fin de sa vie, qui est Albin Michel. Et cet éditeur, c'est Jean Moutapa, qui est en ligne avec nous. Bonjour Jean Moutapa.
Oui, bonjour.
Vous l'avez incité, Abdel Wahab Medeb, à publier Printemps de Tunis, la métamorphose de l'histoire, qui est ce carnet de voyage peuplé des acteurs de la révolution tunisienne, ponctué de ses réflexions sur la politique et sur la Tunisie, juste avant même que vous n'éditiez vous-même le livre qu'il a écrit avec Benjamin Stora, Histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours. Vous pouvez nous raconter rapidement le cheminement qui vous a conduit à rencontrer Abdel Wahab Medeb pour ce livre-là?
Oui, alors écoutez, avant, j'aimerais bien dire, puisque il est vrai que certains lui ont reproché de ne pas avoir pris trop de risques vis-à-vis du régime tunisien, etc., que c'était un homme entier qui prenait des risques, qui savait prendre des risques très très forts, et la première grande aventure que j'ai vécue avec lui, ça a été ça, c'était un voyage à Auschwitz qu'on a fait en 2003 et qu'on a préparé en 2002, dans laquelle il a été une pièce maîtresse, un voyage qui était lancé par le père Émile Choufani, qui est arabe en Israël, et qui après les événements de 2000-2002 voulait aller à Auschwitz sans rien demander en retour à ses amis juifs, simplement de les accompagner. Et il m'avait demandé, moi, d'organiser la chose en France, alors que lui l'organisait en Israël-Palestine. Et Abdelwahab a été immédiatement embarqué dans cette aventure. Et là, je vais vous dire, en plus, rappelez-vous, fin 2002, début 2003, on était en pleine préparation de la guerre de Bush en Irak. Donc les résistances qu'il y avait dans les milieux musulmans ici en France, c'était terrible. Et je me souviens rencontre, on faisait des réunions préparatoires, on savait pas si c'était réalisable, est-ce que c'est le moment, c'est jamais le bon moment, est-ce qu'il faut pas demander quelque chose en retour au monde juif, etc. Et lui a été dans une séance mémorable avec celui qu'il aimait beaucoup, le professeur Harkoun. Ils ont été tous les deux, je dirais, pour parler trivialement, qu'ils ont emporté le morceau, si vous voulez, vis-à-vis de jeunes qui étaient là, vis-à-vis de théologiens, de tous ces musulmans qui s'interrogeaient, si vous voulez. Et là, il y est allé à fond. Hein. Il disait, j'avais noté à l'époque ces phrases, aller à Auschwitz avec des juifs, c'est affirmer au monde qu'il ne faut pas confondre l'islam avec le visage que certains en montrent. Et y aller sans demander quoi que ce soit en retour, c'est affirmer les ressources d'humanisme vivantes et créatrices qui habitent encore le monde musulman. La générosité du geste n'en fera pas un signe de faiblesse. Au contraire, il s'agit de montrer que l'islam est capable d'un tel acte souverain. Et il insistait sur l'expression, c'est cette expression qui a emporté l'affaire, si vous voulez.
Hein, Jean Moutapa.
Un acte souverain d'une grandeur restée intacte malgré les avilissements voulus par les intégristes.
Jean Moutapa, à l'heure, Jean-Luc Nancy au téléphone nous parlait de son dernier long poème, Portrait du poète en soufi, qui vient de paraître aux éditions Belin. Oui. Vous travaillez justement avec lui sur un projet de livre sur le soufisme qui doit sortir en mars prochain. On arrive au terme de cette émission et de cet hommage, mais juste un petit mot sur le soufisme, parce que c'est quand même un thème qui est revenu très souvent dans cette
hommage. Le soufisme, ça aura été son dernier mot, je dirais, entre ce livre qui paraît chez Belin et le livre qu'on préparait ensemble, qui s'appellera Instant Soufi au pluriel et qui sera préfacé par Christian Jambet. Ça aura été son dernier mot. Son dernier article dans Le Monde, d'ailleurs, présentait le soufisme comme une sorte d'antidote à l'avilissement de l'islam auquel on assiste aujourd'hui.
Merci beaucoup, Jean Moutapa, d'avoir témoigné. Merci beaucoup, Benjamin Stora. Merci à Jean-Luc Nancy également. Et merci à vous, Jean-Louis Schlegel. On va laisser le dernier mot à Abdelwahab Medeb avec son émission Culture d'Islam qui sera diffusée demain à 15h sur France Culture. C'est le début de son émission que vous allez entendre. C'est un inédit, donc, sur le salafisme à venir. Abdelwahab Medeb.
Culture d'Islam d'Abdelwahab Medeb. Salafi, salafisme. Voilà deux mots étranges qui ont changé de sens de 1850 à nos jours. Le mot désignait d'abord les oulémas réformateurs qui ne détestaient pas la modernité occidentale, mais qui cherchaient à s'adapter à elle tout en restant fidèles aux salafs, aux pieux ancêtres. La modernisation ne peut se faire, selon eux, qu'après être revenus aux sources pures de l'islam, celles justement en lesquelles s'abreuvaient les salafs, les pieux ancêtres que représentent les trois premières générations de l'islam, celles des sahaba, les compagnons des prophètes, des tabi'oun, ceux qui les ont suivis, et des tabi'oun et tabi'in, ceux qui encore ont suivi les premiers suiveurs.
Le rendez-vous du médiateur sur France Culture.
Voilà, c'est le rendez-vous du médiateur comme tous les 15 jours à cette même grande table. Bonjour Jérôme Bouvier.
Bonjour Caroline Brouet. Alors, vendredi dernier, le 31 octobre, à 12h30 très précisément, un incendie s'est déclaré au 8e étage de Radio France, de l'autre côté donc de France Culture, qui est aussi au 8e étage, dans une zone actuellement en chantier de désamiantage. Aussitôt, les pompiers de Radio France, bientôt secondés par les pompiers de Paris, sont intervenus pour circonscrire le sinistre. Et une heure plus tard, à 13h30, le feu était maîtrisé sans qu'une seule victime, on s'en réjouit évidemment, soit à déplorer. À 12h40, Mathieu Laurent vous informe, chers auditeurs, qu'un incendie s'est déclaré dans la maison de la radio et qu'il est contraint d'interrompre le journal. Votre chère grande table, Caroline, doit laisser place en urgence à un programme de secours. Et puis, vous venez de l'évoquer, je voulais le signaler également, la dernière émission d'Abdel Wahab Medeb, qui devait être diffusée ce vendredi dernier, a elle aussi été reportée. Et c'est pour cela que vous l'entendrez le prochain vendredi. Alors, si l'incident a marqué les quelques 3500 salariés présents qui ont dû abandonner l'antenne, qui ont dû quitter les lieux en plus ou moins bon ordre, il vous a aussi marqué chez les auditeurs et vous êtes nombreux à m'avoir écrit depuis vendredi pour me dire comment vous avez vécu ce moment et pour nous demander des explications sur ce qui s'est passé, raison pour laquelle j'ai demandé à Catherine Sueur, bonjour, directrice générale déléguée de Radio France, de venir nous donner des informations, les informations qu'elle a aujourd'hui en sa possession, je suppose. Alors pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce qui s'est passé ?
Alors, il y a une zone de chantier où un feu s'est déclaré. Le feu s'est déclaré donc au 8e étage, au même étage que France Culture, mais exactement à l'opposé, donc assez loin. C'est un extracteur d'une zone de décompression qui a probablement court-circuité et pris feu. Le feu s'est répandu, mais sur une surface limitée de 200 mètres carrés, sur la totalité de la maison qui en compte plus de 135 000 mètres carrés.
Alors, ce qui a provoqué interrogation, et moi aujourd'hui encore d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas eu d'alarme d'incendie qui se soit déclenchée. Alors, est-ce que c'est un dysfonctionnement, un problème technique, ou bien c'est une décision délibérée ?
Sur la zone de chantier, il n'y avait pas d'alarme incendie. L'objet même du chantier de réhabilitation, c'est de curer, démonter et de remettre en sécurité la maison de la radio. Et donc, il n'y a pas de réseau dans les espaces où nous intervenons. Donc, il n'y avait pas d'alarme incendie. C'est assez fréquent. Et d'ailleurs, le capitaine des pompiers qui est intervenu dans les médias le jour même, là, souvent rappeler que dans les zones de chantier, il n'y a souvent pas d'alarme incendie. Dans les espaces de la maison de la radio où étaient présents des salariés, pour les salariés les plus proches de l'incendie, ils ont été évacués à 12h34 par les pompiers de Radio France. Dans les autres zones de la maison de la radio, le feu étant très éloigné, assez éloigné en tout cas, les alarmes n'ont pas retenti parce que le feu ne menaçait pas de s'étendre et le bâtiment de la maison de la radio étant un immeuble de grande hauteur, la sécurité incendie fait l'objet d'un compartimentage.
Alors, avec le recul, est-ce que la coupure d'antenne était ou non nécessaire ? Vous allez peut-être pouvoir nous deux éléments là-dessus. Et puis, autre question, il se trouve qu'ici, Mathieu Laurent a eu la bonne idée d'informer les auditeurs qu'il y avait un début d'incendie et que c'était la raison pour laquelle il était nécessaire d'interrompre les programmes. Mais à France Inter, par exemple, sans donner de bons et de mauvais points, cette information n'a pas été donnée, il a juste été annoncé un problème. Et donc, du coup, laissant les auditeurs un peu dans l'embarras et les obligeant à s'informer, paradoxalement, pour une maison d'information comme la nôtre, soit sur les réseaux sociaux, soit sur les télés en continu. Donc, est-ce que, un, sur la nécessité d'interrompre les programmes, et deux, sur l'information du public, on a pu tirer des enseignements cette semaine, là aussi ?
Alors, sur le premier point, les directeurs de chaîne, et en particulier France Culture, notamment, c'était la grande table qui était en cours, les patrons de chaîne ont pris la décision par principe de précaution. Il faut dire, vous avez vu les images, elles étaient assez impressionnantes, de demander à leur personnel d'évacuer, puisque la sécurité des collaborateurs était vraiment notre première priorité. Vous l'avez rappelé, Jérôme, il n'y a eu aucun blessé à l'occasion de ce feu. Après, il faut que nous tirions toutes les conséquences, vous avez raison de le dire, sur comment on interrompt l'antenne. Je dois quand même préciser qu'il y a eu une continuité d'antenne et Radio France n'a pas arrêté d'émettre. Nous avons émis un programme, mais un programme de secours et pas nos programmes normaux. Donc c'est effectivement là-dessus que nous devons travailler, sur une procédure d'urgence. Et effectivement, c'est la raison pour laquelle le président Gallet a demandé qu'une enquête interne soit diligentée et qu'on améliore ces procédures en cas d'urgence.
Alors une dernière question qui nous est posée par nos auditeurs, c'est que dans cette belle maison est attendue le week-end du 13, 14 et 15 novembre prochain, une belle fête, fête musicale, fête de réouverture. Et certains se demandent si du coup le programme de festivités n'est pas interrompu et si même s'il est raisonnable de venir dans une maison qui a quelques problèmes. même comme cela.
Oui, car le bâtiment qui ouvre le 14 novembre est un bâtiment complètement réhabilité. J'y suis passée ce matin. L'auditorium va être magnifique et nous pourrons accueillir tous les spectateurs et auditeurs de Radio France.
Et je rappelle d'ailleurs à nos auditeurs à cette occasion que s'ils veulent s'inscrire aux différents concerts, musique classique ou de variété qui sont proposés pendant ces trois jours, ils vont sur le site maisondelaradio.fr.
Merci beaucoup Jérôme Bouvier. À dans 15 jours à la technique aujourd'hui, c'était Jean Guilain-Meige.